Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Capi Service. Merci à tous ceux qui viennent de nous rejoindre sur la fréquence de la paix. Et merci à vous tous qui nous écoutez sur www.radiocapi.net. Comment développer un leadership percutant? On en parle aujourd'hui avec Monsieur Jospin Moussoué Wamulemba. Il est pasteur, expert en leadership et coach en développement personnel. Jospin Moussoué, bonjour.
Bonjour et bonjour à tous les auditeurs de la radio Okapi.
Bienvenue dans cette émission Okapi Service. Des questions et préoccupations, appelez au 099-706-9941. Écrivez-nous également à service@radiokapi.net. Tati Mapoukou assure la coordination et la réalisation de cette émission. Dieudonné Nyanga à la mise en onde. Au micro, Jody Daniel Nkashama, sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. Bienvenue à tous.
Grâce à Internet, la radio d'aujourd'hui s'écoute aussi quand vous êtes disponible et pas seulement en direct. Radiokapi.net, téléchargez et conservez vos émissions préférées. Dialogue entre Congolais, parole aux auditeurs et Okapi Service. Téléchargez l'émission de votre choix, vous l'écoutez quand vous le souhaitez. Radiokapi.net, la radio en différé à votre service.
Bien, en République démocratique du Congo, la majorité de la population congolaise croupit dans la pauvreté et la misère malgré les ressources naturelles immenses que recèle le pays. Et malgré le nombre élevé des intellectuels, on assiste à un désordre structurel et au manque d'infrastructures de base comme les hôpitaux, les écoles, etc. Alors, pour certains experts, notamment pour notre invité Jospin Moussoué, c'est la résultat du déficit d'un leadership percutant et des pouvoirs des 3C, communion mystique, compétence et communication. Alors, comment développer un leadership percutant et des pouvoirs des 3C? C'est même les titres de l'ouvrage qu'il vient de publier. Puissance de gouvernance politique, leadership percutant et pouvoir des 3C, tome 2, édition DLG. Jospin Moussoué Wamulemba, bonjour, encore une fois bonjour.
Bonjour.
Ravi de vous accueillir dans cette émission. Vous avez plusieurs casquettes, vous êtes pasteur, expert en leadership, en discipola, coach en développement personnel, conférencier, formateur, etc. Alors, d'abord, la première question est de savoir, qu'est-ce qu'on entend par leadership percutant?
C'est une question pertinente en ce qui concerne ce livre. Le leadership percutant, si vous permettez d'abord, avant de nous étendre sur la pensée du livre, justement d'épiloguer ou de relever 5 piliers sur lesquels est construit la pensée justement de ce livre, si vous le permettez en ce qui concerne le leadership. Premièrement, le leadership est la véritable matière grise pour atteindre la meilleure version de soi, la réalisation de ce potentiel et les performances inimaginables. Un peuple sans un leadership fort court dangereusement le risque de disparition existentielle. Et si vous voulez, d'être dépossédé de son territoire et desservi, bien entendu, de ses ressources. Et la force d'un pays ne compte d'abord nullement de sa grande superficie, mais encore de ses ressources naturelles. Bâtir un système social paisible. Relever et améliorer les conditions de vie des citoyens avec des croissances économiques remarquables ne sont nullement l'expression justement d'une action magique, cependant tributaire d'un système de leadership capable de définir des politiques de gestion qui répondent aux normes de gouvernance qualitative. Tertio, outre les techniques et stratégies par lesquelles une entité sociopolitique est gouvernée ou rendue gouvernable, le leadership politique et d'abord une question de mentalité, une question d'état d'esprit qui rend possible toute action de gouvernance à la fin ultime du bien-être, bien entendu, de la population. Quattro, pour influencer et gouverner efficacement, il est indispensable et nécessaire de développer le pouvoir de 3C, un paradigme pour un leadership personnel percutant. Et ultimo, la nécessité du leadership percutant tel que développé dans ce livre s'avère inéluctable dans un contexte politique aux crises énormes et multiformes de leadership dont la désorganisation dont vous avez parlé, la désorganisation structurelle, l'anarchie sociale, les politiques économiques demeurent des exécrables référents patents de ce que nous appelons le syndrome dissociatif politique.
Bien, après avoir dit tout cela, maintenant expliquez-nous des termes beaucoup plus simples, on veut comprendre. De quoi s'agit-il ?
Il s'agit d'un type de leadership au regard de tout le problème que nous diagnostiquons dans notre société, pas seulement en République démocratique du Congo, mais aussi en Afrique subsaharienne. Un problème qui, justement, nous démontre clairement le déficit de leadership, un leadership transformationnel, un leadership, bien entendu, basé sur une gouvernance qualitative.
Voilà. Donc, leadership, quand on parle du leadership percutant, qu'est-ce que ça veut dire? Un leadership qui amène des changements tout de suite?
Oui, un leadership percutant. La finalité d'un leadership percutant, certes, il y a ce que nous appelons dans le livre le pouvoir de 3C, le pouvoir de communion mystique, parce que il faut noter tout de suite que le leadership est une dimension outre son sens beaucoup plus horizontal, son engagement dans la société à transformer la société. Mais le leadership puise sa force justement dans les dimensions spirituelles qui lui sont bien entendu inhérentes. Parce que les grands leaders sont d'abord des grands esprits au service justement de l'humanité. Deuxième élément, parce que nous n'oublions pas que le pouvoir est d'essence divine. L'essence divine. Mmh. Tous ces grands, ces grandes figures sur le plan politique, comme sur le plan, justement, d'engagement social.
Comme Nelson Mandela.
Nelson Mandela, Desmond Tutu. Oui. Je vais aux États-Unis avec Martin Luther King, dans ses engagements politiques. Je peux aller en Inde avec Mahatma Gandhi. Mmh. Voilà. Tous ces grands-là, à un moment donné, ont puisé leur force d'engagement social en termes de transformation dans des valeurs qui sont des valeurs spirituelles. C'est pourquoi il est très important justement de développer ce qu'on appelle la communion mystique en leadership pour être beaucoup plus équilibré et avoir justement un noyau d'énergie capable justement de booster et de changer les choses dans la société. Mm-hmm. Et deuxième pouvoir, c'est le pouvoir de compétences requises. Parce que nos sociétés, à un moment donné, connaissent des déficits, tout simplement parce que nous mettons de côté la question de compétences, des compétences conceptuelles, de compétences interpersonnelles, de compétences techniques, de compétences tactiques. Voilà les choses qui développent justement la société. Ce n'est pas une question justement de choses liées à nos tribus ou à nos acquaintances.
Ou
à un parti politique, comme on le voit à un moment donné, justement dans ce contexte électoral ou pré-électoral. Mais cette question justement de compétences. Notre pays a besoin justement de remettre la question de la méritocratie à la table. Question de la méritocratie justement à la première place pour voir les compétences. Qui est capable de faire quoi? Qui est capable d'amener quoi? Exactement, c'est au regard de ça que nous pouvons espérer justement voir le développement arriver dans notre pays en République démocratique du Congo.
Mmh. Et voilà. Qui est un leader? C'est quelqu'un qui influence, qui inspire les autres?
Oui, le terme leadership est interchangeant avec celui justement d'influence. Un leader, c'est un meneur, celui qui prend les gens d'un point A vers un point B. Et donc la question justement de l'influence, et cette influence est une influence transformationnelle, est une influence relationnelle, est une influence inspirationnelle et optimisationnelle, parce que les gens que vous devez mener d'un point A vers un point B, donc vous devez les transformer, vous devez les motiver, vous devez les rendre capables, les qualifier de manière à ce qu'ils soient capables justement de s'inscrire dans cette dynamique de changement, de transformation, et évidemment vers des horizons meilleurs, là où vous voulez les amener. Donc il y a une question de vision, il y a une question de motivation, il y a une question d'inspiration. Voilà en gros ce que nous entendons par le leadership, justement dans sa conception beaucoup plus simpliste.
Il y a un exemple d'un leader dans notre génération qui est percutant, qui a pu inspirer les autres.
Nous souffrons, il faut dire honnêtement, nous souffrons sérieusement en ce qui concerne le leadership inspirationnel. Nous souffrons de modèles quand on regarde notre société en partant déjà justement du premier foyer éducatif qui est la famille. Nous avons l'impression que la famille est dysfonctionnelle, la famille est déstructurée. Ainsi, le modèle parental, c'est un modèle à reconstruire. Vous avez l'école qui est quasiment obsolète avec un programme éducatif que me semble dépassé, et donc D'un point de vue éducatif classique, l'école est quasiment un modèle, pas de référence. Vous avez aussi d'autres foyers d'éducation, d'autres foyers éducationnels, comme l'église, à mon avis, justement, qui me semble être des missionnaires. Et évidemment, parce que cette église, à un moment donné, elle est engagée dans la production, justement, de fanatiques, en lieu et place des disciples et des leaders. Conséquence, évidemment, nous souffrons d'un sérieux problème sur le modèle.
On parle de Lumumba comme étant un grand leader dans ce pays.
Oui, Lumumba, oui, vous me parlez justement de la nouvelle génération. La nouvelle génération est un sérieux problème justement de modèle. Mais s'il faut puiser justement dans notre histoire, Lumumba c'est un grand esprit, c'est un grand leader. Il a eu le courage justement, un leadership beaucoup plus émotionnel, une intelligence émotionnelle de prendre à bras le corps justement le problème de son contexte, de sa société avec une vision justement futuriste pour amener le Congo évidemment dans des horizons meilleurs. Mais malheureusement, ce type de leadership justement nous semble rare dans le contexte aujourd'hui.
Et pourquoi les grands leaders sont rares actuellement?
Mais évidemment, parce que la question de leadership, c'est une question justement de formation, c'est une question de transformation. Et la transformation qualitative, justement, à l'heure actuelle, semble un sérieux problème, vu que déjà, dès le départ, les foyers éducatifs, la famille, l'école, notamment les églises que nous avons en termes religieux, s'il vous plaît, il faut qu'on se le dise, sont quasiment déstructurels.
Mais être un leader, est-ce que c'est inné, on est avec, ou bien c'est quelque chose qu'on doit apprendre?
Oui, les deux sont possibles. Dans le livre, nous abordons justement dans une partie ces grands débats entre le courant des leaders innés et le courant des leaders justement acquis. Donc les deux sont possibles. Il y a des gens qui naissent avec des dispositions justement de diriger, mais bien entendu cela n'exclut pas la formation, cela n'exclut pas justement l'expérience à travers laquelle ou à travers lesquelles les expériences qui peuvent justement les former et au point de développer justement des capacités de gestion correctes.
Ouais. Et comment détecter ces leaders-là dans la société? Est-ce qu'ils n'existent pas ou ils sont là mais on n'arrive pas à les détecter?
Nous le disons dans le livre, tout homme est prédisposé, tout homme est programmé, bien entendu, justement, à diriger. Mais quand il faut diriger, il faut être formé suffisamment. Et c'est pourquoi, pour nous, justement, nous avons des structures de formation de manière à ce que les dispositions qui sont inhérentes, qui sont innées en termes de leadership, soient, bien entendu, canalisées, orientées, de manière à ce qu'on soit beaucoup plus efficace dans la gestion de la chose publique, pour le cas, justement, du leadership politique.
Mais est-ce que toute personne qui occupe un poste politique, un poste de responsabilité est obligatoirement leader?
Il ne faut pas qu'on tombe dans une confusion entre le positionnement et la disposition. Le leadership, ce n'est pas une question d'âge chronologique. Le leadership, ce n'est pas une question de statut social. Le leadership n'est pas une question, bien entendu, d'un positionnement que l'on a dans la société en termes, justement, de grade, en termes des titres. Donc, le leadership va au-delà de ça. Le leadership va au-delà d'un poste. Donc, vous pouvez être, justement, dans un positionnement au-dessus des autres, mais si vous n'avez pas des dispositions de servir, justement, donc vous êtes, quelqu'un d'autre, non, un leader, ou carrément vous êtes un leader improvisé, donc voilà.
Bien, je reviens à vous pour parler des qualités d'un leader. Avant cela, on va accueillir un auditeur, Maître Omar Kigalo, qui nous appelle de Kinshasa. Bonjour.
Bonjour à l'invité.
Qu'est-ce que vous pouvez me dire par rapport au leadership percutant?
Merci beaucoup à la Radio Capi pour ce sujet percutant. Et je l'ai toujours dit, je crois l'inviter là aussi, dit notre pays, le Congo, a un problème qui est lié à deux causes fondamentales. L'absence d'un leadership visionnaire et la mauvaise gouvernance. Donc ne critiquons pas ce qui ont dirigé dans le passé, ne critiquons pas ce qui gère maintenant. On a un problème de leadership qui manque et un problème de mauvaise gouvernance. Mais je voudrais, comme l'invité l'a dit, les contredire pour dire au Congo s'il y a des leaders. Là, c'était que des étrangers. Le monsieur de Kimbangu, Simon Kimbangu, a fait 30 ans en prison pour une cause noble. Il est plus important que Mandela, qui l'a cité Martin Luther King. Valorisons nos valeurs. Béatrice Kipavit a été brûlée vive parce qu'elle réclamait les droits des Noirs. Antoine Boyimbo, à l'âge de 19 ans.
Voilà, il y a quelques soucis au niveau de la liaison. Désolé, maître, la liaison est perturbée, je sais pas pourquoi. Bon, il va peut-être certainement nous rappeler. Voilà, il dit, mais pourquoi vous valorisez seulement les leaders des autres pays? Et pourtant, au Congo, on en a plusieurs. On en a eu, je peux le dire.
Oui, on en a eu. Donc, je ne dévalorise pas justement les figures de proue que nous avons en Afrique ou en République démocratique du Congo en ce qui concerne le leadership.
Il a parlé de Simon Kimba.
Je suis d'avis. Simon Kimba a eu un engagement à la fois politique, idéologique, pas n'importe lequel. C'est un leader charismatique, justement, que nous répertorions dans notre histoire. Vous avez Kimpa Vita, Ndona Béatrice, dont l'engagement, justement, a été exceptionnel. Ils sont nombreux. J'ai cité, bien entendu, notre héros, Patrice Emery Lumumba, dont la renommée en termes d'engagement politique va au-delà justement de nos frontières. Et donc, je crois bien, maître ne me contredit pas, il ne fait que justement quasiment prendre les mots qui étaient justement dans ma bouche pour les exprimer clairement. Et donc, voilà, nous sommes dans la même logique.
Voilà, nous sommes dans la même logique. Comment développer un leadership percutant? On va accueillir Justin Kalabia depuis Bounia. Bonjour.
Bonjour, monsieur Jody. Bonjour aussi à notre invité.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport au sujet du jour?
Oui, merci, monsieur Jody, en tout cas pour cette thématique du jour. Oui, monsieur Jody, quand on voit ce qui se passe, en tout cas, la misère qui est dans la population congolaise.
Oui, Justin. Décidément, il y a quelques soucis au niveau de...
C'est pas d'accord. Oui, monsieur, ouais, je dis, il faut que nos dirigeants changent tout d'abord leurs mauvaises habitudes. Que chacun ait l'amour de la patrie. Mais ce n'est pas le cas au Congo. Nos autorités, en tout cas, mettent d'abord le détournement à la première place, monsieur, je dis. Et alors que les citoyens... Les paisibles citoyens payent les impôts et taxes, monsieur. Et il faut en tout cas, et ils s'intéressent. Ils ne s'intéressent même pas aux revenus de la population. Alors, prenons les cas, monsieur, aujourd'hui, de la Tanzanie, le feu président John Magufuli. Lui, il disait que, en tout cas, la richesse de son pays ne tombera pas du ciel. Mais ça quittera toujours la population. Et alors, dans des pays là où nous n'avons pas de route, nous n'avons pas l'électricité. Monsieur, aujourd'hui, nous avons encore le problème de l'insécurité. Comment la population peut quitter dans une misère? Donc, moi, même si nous pleurnichons, mais tant que nos autorités ne changent pas ses habitudes, ses comportements, les détournements des vols, même si aujourd'hui, chacun présente son cahier des charges, que non, je ferai ceci ou ceci.
Allô?
Vous verrez que non. Oui.
Oui, allez-y.
Oui, et après, monsieur Jody, vous verrez qu'il y aura, c'est comme des habits Saint-Paul pour habits Saint-Pierre, monsieur Jody. Donc, avant et après, c'est la même chose. Alors, ma question est celle de savoir. Alors, je pense que lui, il est coach en leadership personnel.
Oui.
Maintenant, qu'est-ce qu'il peut nous dire pour que d'abord nos dirigeants. Comment nos dirigeants peuvent changer les comportements à la faveur de la population? Merci, monsieur Jody, et bonne journée.
Merci, Justin. Maître Omar est de nouveau en ligne. Vous êtes là?
Oui, monsieur Jody.
On vous écoute.
Oui, je disais donc pour chuter que, au-delà de ce que l'invité dit, un bon leader doit être bien entouré et être entouré de personnes loyales, sages, compétentes, attachées à sa vision et des personnes correctes. Je me souviens de mon assistant qui est aujourd'hui professeur, Ebérin Colonguel, qui nous disait « Un frère ou une sœur, on paie le ou la subir, mais un ami de la destinée, on les choisit. » Donc, un bon leader doit être bien entouré, car seul, on ne peut rien. Aussi, il faut avoir un coach. Mais j'étais en train d'atterrir pour dire, dans l'histoire, il y a quatre acteurs. Il y a des gens qui font l'histoire, il y a des gens qui racontent l'histoire. Il y a ceux et celles qui subissent l'histoire, mais j'aime la quatrième catégorie, ceux qui changent l'histoire. L'invité se limite à dire « Il n'y a pas de leader, il n'y a personne. Alors, à son niveau, qu'est-ce qu'il a déjà fait en termes de leadership par rapport à son milieu? Parce que chaque personne doit être leader dans son coin. On a au Congo un problème d'éducateurs financiers éducateurs, leadership, qui sont plus des parleurs, des théoriciens que des praticiens. Ils sont nombreux. J'apprécie ce que les pasteurs font, j'applaudis. Mais il y a un problème de résultats attendus sur terrain. On a plus des orateurs, des conférenciers. Mais quel est l'impact du travail qu'ils font? Ne serons pas des gens qui rencontrent des théories inventées à l'Occident. Adaptons le leadership par rapport à nos réalités. Qui sommes et qui a initié les affaires économiques au Bas-Congo n'a pas été formé ni instruit. Bemba, le père, n'a pas fait le leadership. Donc, au-delà de ce qui existe, adaptons nos notions par rapport aux réalités congolaises. Ne nous limitons pas à être des vrais parleurs, des vrais théoriciens. En réalité, on a beaucoup d'éducateurs financiers qui n'ont même pas des millions en banque. Mais ils prêchent aux gens comment devenir millionnaires. On a les leaderships qui disent au Congo, il n'y a pas de leader, mais lui-même à son niveau petit nous dit ce qu'il a déjà fait en termes de leadership. Mieux vaut être acteur qu'orateur. La logique demeure dans ce qu'ils font et non dans ce qu'ils parlent seulement. Voilà ma préoccupation pour ça aujourd'hui. Je vous remercie.
Bien, merci Maître Omar. Bien, Monsieur Jospin Moussou, à vous la parole.
Non, mais Maître, je ne suis pas là pour parler de ce que moi je fais. Déjà, écrire un livre, mettre à la disposition justement une pensée pour instruire, pour orienter une population, c'est déjà quelque chose. Il y a dans toutes les sociétés, il y a ce qu'on appelle les penseurs. Vous n'allez pas demander aux penseurs d'inventer justement des pensées et au même moment justement de les appliquer. À vous, aux consommateurs, justement, de prendre ce qui se passe dans toutes les sociétés, bien entendu, développées. Donc, il ne faut pas me dire que les penseurs ont le droit aussi de défendre ces pensées, justement, dans la consommation sociétale. Donc, je fais ce que je fais, à ma manière, à mon niveau. Je sais que le problème est tellement profond, le mal est tellement profond, on doit se le dire. Ce que je fais peut-être peut ne pas être ressenti justement dans l'ensemble de la population, dans l'ensemble de notre société, mais je le fais parce que je suis coach en développement personnel. J'investis dans le genre et les gens dans lesquels j'investis, évidemment, seront utiles à la société. Il y en a qui sont utiles, il y en a qui sont de grands messieurs. Et donc, voilà, c'est, je crois bien, le petit apport que moi je suis en train de faire avec, bien entendu, la pensée que je mets à la disposition justement de la société. Donc, voilà. Deuxième chose, je n'ai pas dit qu'il n'existe pas justement des leaders. Il faut dire que les leaders sont devenus rares. Parce que nous vivons avec tout ce que nous traversons, tout ce que nous connaissons comme réalité, que ce soit sur le plan politique, que ce soit sur le plan justement de la mentalité, sur le plan personnel. Il faut dire, notre société est en déphasage. Ça, il faut sincèrement
qu'on se le dise. Il y a un déficit des leaders.
Il y a un déficit de leadership dans notre pays. Voilà.
Quelles sont les qualités d'un bon leader?
Les qualités, là on parle de qualités d'un bon leader. Les qualités d'un bon leader, c'est ce que je voulais justement évoquer dans l'ordre de débat entre le positionnement et la disposition. Un leader, c'est justement celui qui a développé des dispositions de servir les autres. C'est ça d'abord le leadership. Parce que vous ne pouvez pas influencer qualitativement, de manière à transformer qualitativement justement quelqu'un lorsque vous n'êtes pas apte à le servir. Un bon leader, c'est celui qui ne pense pas se servir.
Il doit avoir une vision.
Évidemment. D'abord, il a la disposition de servir. C'est là cette question qui implique l'amour des autres. Si nous avons justement des dirigeants qui pillent le pays, si nous avons des dirigeants versés dans la corruption, c'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas incarné l'amour, la valeur, justement, qui les amène à transcender leur égoïsme. C'est très important. La première disposition, à mon avis, c'est l'amour pour les autres. C'est la disposition de servir. C'est la disposition non de se servir ou de se servir des autres. C'est la disposition de servir. On est là pour servir les autres. On est là pour servir à l'intérêt général, justement pour le développement du pays. Et non se servir, et non piller les caisses de l'État et voilà, se rendre riche au détriment des autres, s'enrichir sous la situation chaotique des autres. Non. Là, nous disons non. C'est pas ça, le leadership.
À l'époque, il y avait même un slogan, un père égale servir et non se servir.
Ça peut être bel et bien beau si, évidemment, on transcende la dimension, justement, de slogan pour se livrer à des actions politiques et qui traduisent justement ce service. C'est à ces moments-là, évidemment, qu'on parlera d'une telle disposition. Mmh. Donc, ne faisons pas la confusion entre un slogan politique avec les actions politiques, justement, qui relèvent d'une disposition honnête de servir les autres. Bien. Et donc, je voulais répondre aussi à Maître pour lui dire, oui, dans ce livre, nous parlons justement d'une équipe intelligence politique en ce qui concerne la gouvernance qualitative. La première intelligence d'un leader, la toute première intelligence d'un leader, c'est celle de savoir bien s'entourer. C'est celle de savoir composer autour de lui une équipe d'intelligence politique, bien entendu, transformée et même montée au prorata de sa vision, conceptualisée en des objectifs clairs, précis,
mesurables. Comment trouver toutes ces bonnes personnes là?
Mais il faut les recruter. Il faut les recruter parce que nous les disons même en anglais.
Il faut des appels d'offres.
Un leader, un bon leader, celui qui est capable justement de fédérer les gens autour de lui, de recruter les gens, de les former, mais bien entendu au prorata de sa vision, pas sur base bien entendu du tribalisme, non, pas sur base des amitiés. Il est celui qui a une vision, il sait qui peut jouer un rôle fondamental dans sa vision. Et nous donnons l'exemple justement, Maître va m'en vouloir, si je parle ici par exemple de Theodore Roosevelt dans les années 1930 où les États-Unis connaissent le marasme économique et Theodore Roosevelt vient en 1932, il propose les New Deal. Mais qu'est-ce qui va faire la force en termes justement des réformes économiques qu'il va mener? C'est ce qu'on va appeler aux États-Unis les Brain Trust. Les Brain Trust, c'est des gens, une équipe de gens d'intelligence politique, justement qui, cette équipe a amené Theodore Roosevelt, a mené des grandes réformes. Et donc, vous ne pouvez pas être un bon leader si vous avez une équipe médiocre autour de vous, parce que l'équipe autour de vous est justement le miroir de votre intelligence. Si l'équipe est médiocre, c'est que vous-même vous êtes médiocre, parce que vous les avez recrutés. Et vous les avez recrutés au prorata de quoi? Sur base de quoi? Voilà ce que je voulais dire.
Mais vous vous souvenez, à l'époque, l'ancien président avait dit qu'il n'a trouvé même pas 15 personnes de confiance avec lesquelles il pouvait travailler pour développer les Congos.
Je ne dis pas ici trouver ces gens doit être facile, mais vous avez la responsabilité. Vous avez la responsabilité. Tous les grands leaders qui ont réussi, ils n'ont pas marché seuls. Ce sont des gens justement qui se sont engagés à trouver, à dénicher ces gens. Il faut les dénicher. Deuxième élément, il faut les former. Il faut les former par rapport à sa vision. Quelle est la vision? C'est pourquoi le leadership implique la vision. Et dans le livre, nous parlons justement d'une vision clairement conceptualisée sur le plan politique.
Mais c'est quoi une vision? Une vision politique, par exemple.
Une vision politique, c'est bien entendu à l'horizon, par exemple, 2050. Qu'est-ce que nous voulons faire de la RDC sur le plan agricole? Qu'est-ce que nous voulons faire de la RDC sur le plan, par exemple, sécuritaire? Qu'est-ce que nous voulons faire de la RDC sur le plan économique au regard de ses ressources? Voilà, on se conceptualise une vision au regard de problèmes diagnostiqués. Deuxième élément, au regard, bien entendu, de toutes les ressources disponibles, répertoriées. Et on se dit, voilà, nous voulons un tel type de pays dans plus ou moins 20 ans, dans plus ou moins 50 ans. C'est ça une vision. Il y a un horizon bref que nous devons définir. Et par rapport à ça, on a des objectifs conceptualisés, des objectifs clairs.
Des objectifs à moyen, à court,
et à long terme. Troisième chose, il y a ce qu'on appelle la pensée politique en termes de gestion. On ne se réveille pas un matin comme ça, on commence à créer, à construire un pont là-bas, une route là-bas. Non, on pense la société. La société se pense en termes d'organisation. La société se pense en termes de fonctionnement. La société se pense en termes d'action, justement, qui conduisent aux services à fournir, bien entendu, à la population. Parce que ces services, on le fournit en fonction de quoi? En fonction, bien entendu, de problèmes diagnostiqués. Quels sont les problèmes? Nous avons le problème de la corruption. Quel est le problème? Nous avons le problème de la balkanisation. Quel est le problème? Le problème de la mauvaise gouvernance. Si c'est par rapport à ça, on va bien entendu s'asseoir, se dire, il nous faut telle pensée politique. Il nous faut penser la RDC. Il nous faut penser son développement. Arrêtons de nous lancer en politique avec des slogans alors qu'on n'a pas pensé la société. Conséquence, lorsqu'il n'y a pas de pensée politique clairement conceptualisée, nous aurons des actions qui seront moins réfléchies et moins coordonnées.
Bien, quelqu'un a parlé tout à l'heure des Magufuli. Il a évoqué le cas du président Magufuli. Est-ce qu'on peut aussi les classer parmi les grands les leaders?
Oui, Magufuli est exceptionnellement un leader panafricain. Justement, en Tanzanie, on a vu dans un seul mandat ce qu'il a fait, ce qu'il a apporté justement en Tanzanie. Si c'est un modèle, c'est un paradigme de leadership que nous voulons justement pour nos sociétés africaines. Un tel engagement, il faut dire, Magufuli est dans un leadership, d'un type de leadership qu'on appelle transformationnel. Un leadership transformationnel, c'est un leadership des résiliences. C'est un leadership résilient.
Dommage qu'il n'a pas pu, qu'il n'ait plus envie. Il n'a pas pu travailler pendant longtemps. On va accueillir Marès depuis Kisangani. Bonjour.
Oui, Marès, bonjour. Oui, bonjour, bonjour, Radio Kati.
Nous parlons du leadership percutant. Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à ce thème?
Je vais vous parler de leadership percutant, au moins. Bon, premièrement, d'après moi, monsieur, je dois être bref. Et dans notre pays, tellement que nous sommes riches en tout, mais ce qui nous manque normalement, c'est l'organisation. Vous allez comprendre avec moi que il y a des choses qui ne vont pas du tout bien. Suite au manque de quoi? Dans notre pays tel que nous sommes, nous devons avoir référence toujours à de bibliothèques privées telles que des leaderships qui ont été passés. Il y a des gens qui ont fait des choses dans ce pays et ces choses-là n'avaient même pas atterrir, n'avaient même pas eu une suite favorable. Ça a été donc été inachevé. Alors pour que cela puisse arriver enfin et que nous puissions être satisfaits, il y a des besoins qu'il peut avoir, qui peut nous amener de développement, d'avancement dans notre pays. Monsieur le journaliste, aujourd'hui, nous avons des gens tels que le savez de leadership. Déjà, je peux copier au moins avec les John Magufuli, que son âme repose à fait. Des leadership comme ça, nous devons donc copier, nous devons consulter des bibliothèques privées. Des bibliothèques privées qu'on a déjà vu, qu'on a déjà assisté quand même à ça, pour que nous soyons aussi organisés tels que nous devons être, monsieur le journaliste.
D'accord. Merci beaucoup, Marès, depuis Kisangani. Monsieur Jospin, qu'est-ce que vous pouvez lui dire?
Oui.
Merci beaucoup.
Je comprends son souci, c'est de voir émerger un leadership fort, un leadership visionnaire, un leadership transformationnel. Regard justement de toutes les ressources que nous avons tout intérêt. Nous n'avons pas d'excuses. Justement, il nous faut à un moment donné que nos acteurs politiques comprennent la nécessité de développer un leadership transformationnel, un leadership visionnaire, un leadership fédérateur, un leadership, bien entendu, qui repose sur une gouvernance qualitative pour nous voir justement sortir justement de la pauvreté et de l'auberge. Voilà.
Voilà. Donc nous avons besoin d'un leadership fort pour élever le Congo, sortir de la pauvreté, de la situation dans laquelle on se trouve. Alors maintenant, la grande question, c'est de savoir comment produire ces leaders, comment avoir plus de leaders visionnaires qui peuvent travailler pour le changement.
Il nous faut beaucoup travailler sur la transformation. Il nous faut beaucoup travailler sur le leadership transformationnel. Je dis le leadership transformationnel, c'est un leadership de responsabilité. Donc chaque Congolais devait beaucoup plus comprendre qu'il est responsable justement à ce niveau du développement de ce pays, dans son engagement, donc dans sa parcelle, dans son quartier, et cela jusqu'au sommet de l'État. Le leadership transformationnel, c'est un leadership de responsabilité. La responsabilité est un mot en anglais qui est composé pratiquement de deux termes. Responsibility. Vous avez la réponse, response, et vous avez bien entendu l'amabilité, amability, capability, la capacité. Et donc la responsabilité, c'est la capacité à donner des réponses aux problèmes qui sont le nôtre. Le Congolais doit comprendre qu'il n'y a aucun peuple qui viendra justement travailler pour notre développement. Le Congolais doit comprendre que même Dieu ne descendra pas du ciel pour venir justement travailler pour notre développement. Donc, il nous faut prendre à bras-le-corps notre destin. Il nous faut un engagement particulier. Il nous faut un réveil où nous nous disons c'est assez, c'est assez. Si vous prenez Makufuli, c'est le type de leadership résilient, responsable, le type de leadership à un moment donné révoltant où on s'est dit c'est assez, les choses doivent changer, c'est assez. Le Congolais doit comprendre cela. Nous devons comprendre que nous avons la responsabilité de transformer notre pays. Quelqu'un d'autre ne le fera pas. Et cette responsabilité a des niveaux différents. Ceux-là qui sont, bien entendu, dans les pouvoirs publics, ils ont la responsabilité, justement, de se dire, c'est assez avec la corruption. Il faut qu'on arrête. Et au-delà de tout, il y a des mécanismes qu'il faut mettre, notamment la justice indépendante, qui suit, qui sanctionne correctement, qui sanctionne justement tous ceux-là qui se livrent à la corruption, au détournement, et que cela soit beaucoup plus exemplaire. Nous ne pouvons pas parler.
Mais est-ce qu'un leader, c'est celui qui mobilise les foules, qui peut réunir des foules et puis qui donne un discours électrisant, tout ça?
Non, mais c'est ça. Tout ça, c'est ce qu'on appelle la mécompréhension du concept de leadership. Oui. Le leadership, ce n'est pas le fait de mobiliser les gens autour de soi. Parce que vous pouvez avoir
c'est
des gens...
C'est pour applaudir.
Oui, oui, vous pouvez avoir des gens autour de vous, mais vous vous servez de ces gens pour atteindre vos objectifs. Le leadership, c'est amener chacun de personnes qui vous entourent à atteindre son objectif de vie. C'est que vous devez clarifier. Vous devez clarifier les objectifs de chacun et à aider chacun à atteindre son objectif. Le leadership vous conduit justement à la maximisation de vos potentiels. Le leadership n'est pas, voilà, centré sur un individu qui monte sur la plateforme et que vous devez l'acclamer. Ça, c'est pratiquement autre chose. Ça, c'est une secte. Ce n'est pas vraiment le leadership dont nous avons besoin. Mmh. Donc, vous pouvez avoir des masses parce que il y a une conception populaire, populiste telle que tel Azo Salabafou, plein, tel autre Azo Salabampiaka, surtout voilà. Dans le contexte justement des élections. Mais c'est du n'importe quoi. D'ailleurs, il faut le dire. Il faut le dire. Azo Salabampiaka, Azo Salabampiaka ne reflète pas la vérité des urnes. Ça, c'est une utopie. Mm-hmm. Ça, c'est une utopie. Surtout dans un contexte de pauvreté sociale dans lequel justement nous nous retrouvons. Et il suffit justement que je donne 2, 3, 4 billets de banque justement pour que je voie 2, 4, 5 personnes.
Je peux mobiliser, bien sûr.
Mais exactement. Et oui. Le leadership, c'est pas ça. C'est pas ça. Le leadership est transformationnel. Les personnes qui y viennent, quelle est l'information que vous leur donnez capable justement de provoquer ce qu'on appelle la restructuration cognitive? Parce que il faut dire, il n'y a pas de transformation lorsqu'il n'y a pas de nouvelles idées. Il n'y a pas de transformation lorsqu'il n'y a pas un nouveau schéma de pensée qui entraîne une nouvelle perception, une nouvelle vision de choses. Lorsqu'il n'y a pas de nouvelles informations capables de changer les dispositions intérieures, capables d'amener la personne à une conversion morale et de nouvelles attitudes et nouveaux comportements dans la société, il n'y a pas de transformation.
Bien, on va accueillir bienvenue depuis Kikwit. Bonjour.
Bonjour.
Quelle est votre préoccupation? Bienvenue.
Oh, ma préoccupation est celle de constater ensemble, comme j'ai tenté de dire notre invité, au Congo, nous souffrons d'une crise de leadership. Nous avons des personnes qui s'improvisent parce qu'il a un peu des moyens, parce qu'il a eu la chance d'être nommé ministre ou qui que ce soit. Il peut réunir les gens, mais en réalité, ils n'ont pas un message consistant qu'ils peuvent transmettre à d'autres personnes pour que cela puisse se retrouver dans leur sens de liberté, il faut le dire. Donc, nous avons des leaders qui, je peux m'exprimer, des circonstances, mais en réalité, dans leur chef ou dans eux, nous autres, on se retrouve pas. Nous sommes pendant les élections. Nous écoutons même les discours de certains candidats, que ce soit au niveau des élections présidentielles. Certains messages, ça laisse à désirer. Donc, vous sentez vraiment que ce sont des messages qui n'ont pas de contenu. Lorsque nous sommes en face de telles personnes, je me demande, est-ce que ça peut avoir de la transformation? Parce qu'eux-mêmes, il y a des fois, ils ont difficile à se définir d'abord pour eux-mêmes. Ils n'ont pas un message qui peut toucher la cible, qui peut transformer les jeunes que nous sommes, qui peut transformer d'autres personnes qui n'ont pas peut-être cette facilité de communiquer ou de voir la parole. Ils jouissent de leur bien, de leur fortune, peut-être c'est pour les certaines personnes, mais ils n'ont pas ce sens-là de leadership.
D'accord. Merci, bienvenue des Kikwit. Monsieur Jospin, qu'est-ce que vous pouvez lui dire?
Il n'a fait que renforcer, justement.
Constater, oui.
Oui, il n'a fait que constater et aussi renforcer, justement, les hypothèses que nous avançons, justement, dans le livre entre le leadership basé sur les dispositions de servir et non pas, justement, sur les positionnements que l'on a dans la société.
Bah alors, voilà. Parlons par exemple du cas de Mandela, Nelson Mandela. Pouvez-vous nous démontrer comment ce leader a pu changer, transformer l'Afrique du Sud, même l'Afrique...
D'abord, la question du leadership de Mandela, c'est une question d'amour. C'est une question d'amour. Mandela est nationaliste. Il aime son pays. Il aime son peuple. Il compatit. Il accepte de souffrir avec son peuple. Mandela n'est pas dans la disparité sociale entre les extrêmement riches et les extrêmement pauvres. Voilà. Donc, il accède au pouvoir avec un but, avec un cœur, avec une disposition de servir son peuple qui souffre. Voilà les tels leaders qui nous manquent, par exemple chez nous, à l'heure actuelle, dans notre contexte. Nous avons des cela. S'il vous plaît, regardons ne serait-ce que le nombre de candidats qu'il y a. Qui a jamais eu.
Ah, c'est
le nombre de candidats. Et vous avez dans une famille où le père et le papa est candidat, la maman est candidate, les enfants et ainsi de suite.
Les cousins.
Mais bon, tout ça c'est bien beau, mais pour quel leadership, pour quel but final en termes de conquête de pouvoir, qu'est-ce qu'ils vont nous apporter? Voilà ce que nous attendons. Pour quel amour? Parce que on se dit, à l'Assemblée nationale, on perçoit 21 000 $, on fait de calcul en fonction de ça. Et c'est comme ça notre pays devient justement un reflet d'un sous-développement inimaginable. Donc on va au pouvoir, on va à la conquête du pouvoir pour se servir personnellement. C'est de l'égoïsme. Et ça va nous bloquer, ça va nous torpiller davantage. Nous avons besoin justement d'une rupture avec ces genres de pratiques pour nous développer, bien entendu, les cœurs capables d'aimer le Congo, de s'engager justement pour sortir la population de la misère. Et je parle dans le livre de ce qu'on appelle la volonté politique juste. Un type de leadership de revanche. Un type de leadership de révolte. On en a marre de la situation de misère. Il nous faut une détermination et il nous faut des engagements politiques qui reflètent, bien entendu, une pensée correcte pour la gestion de la République démocratique.
Est-ce que Mouzet Laurent Désiré Kabila peut être classé parmi les grands leaders? Il est mort pour son pays et puis il disait la phrase... magique, je ne trahirai jamais le Congo.
Ne jamais trahir le Congo, mais qu'au-delà de tout, Mouzet, nous retenons de lui l'autoprise en charge, la responsabilité, le sens justement patriotique et nationaliste, justement qui nous a légué, où le Congo doit aimer, le Congolais doit aimer son pays, il doit se battre justement pour le défendre. Voilà. Un peu, grosso modo, ce que nous retenons justement du leadership de Mouzet. Donc, c'est une figure de leadership, pas n'importe laquelle.
Bien. Alors, leadership percutant et pouvoir des 3C, vous parlez de la communion mystique, les compétences et communication. Pouvez-vous expliquer un peu plus les trois concepts là?
Les trois concepts, j'ai dit, ne l'oublions pas, le leadership, c'est... D'abord une dimension spirituelle, c'est d'abord une dimension de la pensée, c'est d'abord une dimension des valeurs qu'on incarne. Et ces valeurs, c'est dans l'ordre justement de la communion avec l'ultime, de la communion avec soi-même. Je ne parle pas quand je parle de la mystique, je sais que c'est un terme qui est beaucoup plus galvaudé dans nos milieux, mais vous lisez justement Jean Péguy qui vous dit que tout commence en mystique et finit en politique. Parce que la mystique justement se couche dans le coin du lit du temporel. Vous avez Jaurès le prophète, évidemment, vous avez Jean-Jacques Rousseau dans le contrat social, qui vous dit, mais bien entendu, le contrat social trouve son noyau justement dans la mystique, c'est l'amour justement de sa patrie, c'est l'amour des autres. Vous avez Paul Ricoeur, ils sont nombreux même dans la France post-révolutionnaire, Ségolène Royal, lisez aujourd'hui dans la France laïque avec Macron, ainsi de suite. Et donc, je veux attirer pour vous vous dire, le leadership, c'est une valeur spirituelle. Tous les grands leaders sont des grands esprits. Ils transcendent la tribu, ils transcendent les régionalismes, ils transcendent les tribalismes, ils transcendent l'égoïsme. C'est des gens qui ne vivent plus pour eux-mêmes, c'est des gens qui vivent pour l'intérêt général. Voilà, et c'est comme ça qu'ils ont même, certains, au péril de leur vie, justement, ont rencontré beaucoup de mauvaises choses, parce qu'ils n'ont pas été peut-être compris. Et au-delà de tout, le pouvoir, l'autorité est d'essence divine. Et donc, on ne peut pas prôner un leadership, justement, de l'auto-émancipation de tout, de toutes ces antivaleurs, de toutes ces faiblesses liées à l'égoïsme, sans à un moment donné, donc, développer la dimension mystique. Et la dimension mystique, elle nourrit quoi? Elle nourrit la confiance en soi. Elle nourrit, bien entendu, l'estime de soi. Elle nous amène, justement, à nous découvrir nous-mêmes. D'où, justement, la fameuse boutade philosophique de connais-toi toi-même. Donc parce que nous ne pouvons pas évidemment diriger sans pour autant s'auto-diriger, se connaître soi-même.
Et vous parlez aussi des compétences.
Les compétences, c'est je reviens. Nous avons tout intérêt justement de revenir aux questions de compétences. Arrêtons en République démocratique du Congo de faire le choix sur tel ou tel autre poste en rapport avec nos tribus. Oui. Le tribalisme et autres, mais c'est question justement des critères objectifs. La méritocratie. Telle répond à telle ou telle autre compétence. Et voilà, et c'est ce qui peut nous faire avancer.
Et la communication.
La communication, vous êtes un leader si vous ne savez pas communiquer. Votre vision conceptualisée en des objectifs mesurables, clairs. Évidemment, il est très, très difficile justement que les gens vous suivent parce qu'ils ne vont pas entrer dans votre tête. Vous avez tout intérêt. Et la communication est efficace lorsqu'elle est basée sur, bien entendu, une pensée claire que vous avez de là où vous voulez amener les gens. Et c'est là en communication.
Par exemple, lorsque l'actuel chef de l'État dit, par exemple, que je ferai de la RDC l'Allemagne d'Afrique, est-ce qu'on peut dire que c'est déjà une vision ou c'est...
Nous sommes dans ce qu'on appelle le catalogue de bonnes intentions. Il est permis justement à tout candidat à un moment donné justement de donner des promesses. Ça, ce sont des promesses, ce sont des slogans politiques. Justement en politique, la place d'un slogan politique est recommandée. Tout un parti politique devait avoir un slogan. Dans une campagne, il faut avoir un slogan. Mais un slogan, évidemment, rencontre
mais
carrément une volonté.
Peut être transformé en
une volonté
claire.
Politique. Doit rencontrer une volonté politique. Un engagement politique. Doit rencontrer un plan d'action bien structuré. De manière à ce que, voilà, qu'il quitte le niveau de slogan et qu'il soit implémenté dans ce qu'on appelle les actions politiques en termes de services, justement, à offrir à la population.
Par exemple, dire que d'ici 10 ans, 20 ans, voilà ce que le Congo va devenir, et puis d'étaler et de montrer les différentes étapes qui vont
nous conduire. Mais exactement. Il ne suffit pas de se réveiller un matin de nous dire, voilà, le Congo sera l'Allemagne. Mais avec quelle méthodologie? Avec quelle discipline? Avec quel plan d'action? Avec, évidemment, quel type d'action qu'il faut mener? Avec quelle équipe? Donc, tout cela doit être structuré. C'est pourquoi on appelle, dans le slogan politique, on fait appel à la vision politique clairement conceptualisée. Voilà. Pour ne serait-ce qu'avoir des actions bien coordonnées.
Et qu'est-ce que vous direz, par exemple, à ceux qui parlent d'un Congo émergent d'ici 2030, un Congo émergent? Je reviens à vous tout à l'heure, le temps d'accueillir Mathieu Cassi depuis Bounia. Mathieu, bonjour.
Bonjour, monsieur Jody, et bonjour à votre invité du jour et à tous les auditeurs de la radio au Gabi.
Quelle est votre préoccupation?
Oui, je suis à Béni, peut-être.
Ah, vous êtes plutôt à Béni, ok.
Oui. Alors, moi, je salue d'abord la thématique du jour. J'allais aussi dire que le leadership, en fait, ça repose sur une sorte d'inspiration et pas d'intimidation ou de dénomination. Parce que ce que nous voyons dans notre pays, nous avons des leaders qui n'acceptent pas des conseils, qui sont là, et donc, ce qu'ils pensent, c'est ça le mot d'ordre. Si vous lui disiez que ce que vous voulez faire, ce n'est pas en tout cas une bonne chose. Là, il n'est plus, en tout cas, avec vous, et il va dire que vous êtes devenu ennemi. Et que donc, en tout cas, un leader, c'est un modèle pour la nation, quelqu'un qui aspire, quelqu'un, en tout cas, qu'on trouve des bonnes valeurs, quelqu'un qui n'est pas là en train de mentir, du matin, le soir, sa population. Et donc, ici chez nous, le problème qui vient, qui fait en sorte que le pays n'émerge pas, c'est le problème de leadership. Parce qu'on n'a pas, on ne sait pas en tout cas des autorités qui sont là au service, qui prennent en tout cas les soucis de la population et que la population peut en tout cas vanter si ce n'est pas du populisme. Donc, ce qui est en train de caractériser nos leaders, c'est le populisme, la démagogie, il faut tromper, et ils ne s'inquiètent de tout, de rien. Et les gens sont là en train de les suivre, pourtant il n'y a rien.
D'accord. Merci Mathieu. Merci pour cette intervention, Monsieur Jospin Moussouin.
Voilà, c'est le grand problème que nous avons. Il existe plusieurs types de leadership. Il y a le leadership autocratique, qui n'est pas conseillé. Le leadership autocratique, c'est le pouvoir de soi, le pouvoir pour soi, et voilà, par soi. Le leadership autocratique est centré sur l'individu. Ce type de leadership, semble-t-il, plusieurs l'auraient qualifié de machiavélique ou de leadership charismatique. C'est des leaderships autoritaires. C'est le pouvoir est centré sur un individu, évidemment.
Ici, on entend parler de plus en plus d'autorité morale. Est-ce qu'une autorité morale est forcément un leader?
Pas forcément. C'est type d'individu qui centre le pouvoir pour sur soi et pour soi. Et donc voilà, c'est à mon avis, je serais trop souple de dire est-ce que sont-ils leaders ou juste des démagogues ou des manipulateurs. Donc c'est de vraies questions. Donc,
alors qu'est-ce qu'il faut faire? Faut-il ouvrir beaucoup de centres où on apprend les leaderships en RDC?
Exactement. Surtout parce que le problème, tous nous nous mettons d'accord sur le fait que la RDC connaît la crise de leadership depuis plus de 5 décennies, évidemment.
Donc, on ne doit pas s'arrêter là maintenant, on doit passer à l'action.
Exactement. Oui. L'action, c'est que, voilà, d'abord il y a des efforts, les gens essaient de penser, de diagnostiquer le problème. Oui. Deuxième élément, il faut à ce moment-là mettre des structures justement de formation pour l'émergence d'une nouvelle génération des leaders qui incarnerait bien entendu un espoir de changement qualitatif de la société. Et à notre niveau, nous le faisons, et je crois bien, si je sais qu'il y en a plusieurs dans la société qui le font en termes de développement personnel, donc d'éveil de la conscience.
On a Dr Mouvoudi, par exemple, avec qui vous collaborez aussi.
Mouvoudi qui a préfacé mon livre, donc j'en suis fier, et c'est ici l'occasion pour moi justement de lui dire un grand merci. Oui. Et nous collaborons très bien. Il est très engagé justement dans le développement personnel. Et donc, c'est un apport.
Il y en a plusieurs. Alors, comment vous joindre? Pour ceux qui voudraient peut-être en savoir plus, comment vous joindre?
Ils peuvent juste nous contacter au 097 41 72 269. Ils peuvent nous joindre au 097 41 72 269.
Bien. Jospin Moussoué Wamulemba, expert en leadership et coach en développement personnel. Merci.
C'est à moi de vous remercier.
Mesdames et messieurs, c'est par ici que s'achève cette émission de la vie au quotidien au Capi Service. Merci de nous avoir suivis. Dieudonné Nyangassa était à la mise en onde. Tati Mapoukou a assuré la coordination et la réalisation. Ensemble avec Marc Tchata au micro, Jody Daniel Kachama, tout le plaisir était pour nous de vous servir. Restez branchés sur la fréquence de la paix et bonne suite de programmes sur Radio Capi.